franceinter.fr.
Pendant plus de 30 ans, j'ai conservé sans les ouvrir les cahiers où soigneusement, de son écriture incomparable d'avant-guerre, mon grand-père a consigné ses souvenirs. Il me les a donnés quelques mois avant sa mort en 1981. Il avait alors 90 ans. C'est sa vie qu'il me demandait de décrire en me confiant ses cahiers. Une vie se déroulant sur près d'un siècle et commençant dans un autre monde. Un monde de villages, de chemins à travers champs, de voitures à cheval, de lampes à gaz, de bassines à linge, d'images pieuses, de vieux placards. Une époque où les femmes étaient âgées à 40 ans. Une époque de prêtres tout-puissants sentant le cigare et les sous-vêtements sales, de jeunes bourgeoises rebelles placées dans des couvents, une époque de grands séminaires, de décrets épiscopaux et impériaux, une époque qui commença sa longue agonie en 1914, quand Gavrilo Principe, petit serbe douteux, tira, sans même bien viser, un coup de feu qui pulvérisa la belle illusion de la vieille Europe, provoquant la catastrophe qui allait aussi le toucher lui, mon petit grand-père aux yeux bleus, et dominer définitivement sa vie.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Une vie minuscule, pourrait-on dire, mais une vie qui soudain, par la grâce de la littérature, nous concerne tous et nous raconte ce monde d'hier qui fut celui de nos grands-parents pour la plupart d'entre nous. C'était un temps de grande frugalité, où les enfants arrêtaient l'école à 14 ans pour aller gagner quelques sous, où manger de la viande était exceptionnel, où se chauffer l'hiver était un luxe, où les corps usés vieillissaient vite. Mais c'était aussi un temps où l'on apprenait à se tenir droit, sans se plaindre, et à garder ses blessures enfermées dans des recoins secrets. Comme le fit Urbain Martin, né à Gand en 1891, qui rêvait de devenir peintre et à qui un curé avait déclaré que, pour un fils de pauvre doué pour les études, il n'y avait que deux issues, l'armée ou les ordres. La grande boucherie de 14-18 trancha pour tous. Héros de guerre, deux fois blessé, Urbain en revint traumatisé. La peinture, pratiquée à ses moments de répit, fut dès lors son jardin secret, et l'écriture, dans de petits cahiers entoilés de l'histoire de sa vie, sa revanche sur des années de silence. Romancier, poète, essayiste, son petit-fils, Stefan Hertmans, a mis près de 30 ans à se plonger dans ses carnets. Car même s'il l'avait beaucoup aimé, sa vie de jeune intellectuel engagé, ses choix politiques l'avaient éloigné de cet homme très catholique et très conservateur. Mais une dette, contractée envers son grand-père le jour de son 12e anniversaire, l'a poussé plus tard à rendre justice à ce héros discret, à ce peintre de l'ombre, excellent copiste mais incapable de se représenter lui-même. Guerre et térébenthine, traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin, vient de paraître chez Gallimard. Le 26 mai, à 21h, l'auteur participera à une table ronde avec Christophe Boltanski et Lydie Salvert sur le thème du portrait. Ce sera dans le cadre des Assises internationales du roman à la Villa Gilet à Lyon, qui fête sa 10e édition et dont France Inter est partenaire. Et ce soir, Stefan Hertmans, c'est l'invité de l'Humeur Vagabonde.
Better to dance like a goose. carry me with your body. Your body, the fruit of love, the fruit I adore. Oh, better to dance like a goose than to swim in the booze. Oh, better to dance like.
Clarisse a atteint, bredouillante et tremblotante, l'âge de 106 ans, aussi saine d'esprit et calme qu'elle l'avait toujours été. Mélanie, 103 ans, mélancolique et élégante jusqu'à son dernier jour. Mon grand-père, énergique et sentimental, 90 ans. Jules et Émile sont morts à 70 ans passés. Ils étaient tous des survivants, des personnes résistantes, endurcies par la pauvreté durant leur jeunesse et la rigueur des années de guerre, chrétien jusqu'au tréfonds de l'âme, mais faisait aussi preuve de pragmatisme, de sang-froid et d'ironie face aux circonstances concrètes de leur existence. Leur mesure du temps était aussi simple qu'efficace. Ils comptaient en fonction de ce qui s'était passé avant la Grande Guerre ou des années après la Grande Guerre. Ils restent assis, se taisent, soupirent, rient, toussent, avalent, prennent tout compte fait encore une petite gorgée et disent « Oui, oui, mon vieux, c'est quelque chose la vie. » Je les vois devant moi, les mains posées sur leurs genoux, les unes noueuses avec les pourtours des ongles sales, les autres fines ou pâles. Mais je ne peux pas les dessiner comme mon grand-père en était capable. Une curieuse lumière surnaturelle éclaire leur sombre silhouette, la lumière tenace de ce qui ne reviendra plus. Disparu, consumé. Ici et là, une pierre tombale s'enfonçant de travers dans le sol, leurs maisons rénovées ou démolies, les adresses devenues vagues, les rues où ils vivaient transformées en devenir méconnaissables, la montre arrêtée, les rouages cassés. Et je farfouille dans les pièces du mécanisme ramassé, sachant que je ne pourrai plus jamais la faire fonctionner, tic-taquer, vivre comme un siècle auparavant.
Bonsoir Stéphane Hermatz.
Bonsoir.
On vient d'entendre la jolie page que vous avez consacrée aux frères et aux sœurs de votre grand-père. Et à la fin, la raison pour laquelle ce livre est né, c'est une histoire de montre cassée, la montre que votre grand-père vous avait offerte pour vos 12 ans et que vous aviez malencontreusement laissé tomber sur le carrelage. Ce livre est en fait la montre réparée.
Oui, tout à fait. C'est ce que je dis toujours quand je rencontre mes lecteurs. En fait, il y avait une dette énorme, une dette de laquelle je me suis rendu compte beaucoup d'années après. Je pense que j'avais déjà presque 30 ans ou plus quand je me suis commencé à me rendre compte, mais qu'est-ce que j'ai laissé tomber? C'était une montre qui avait appartenu à son père, qui était un peintre de fresques de restaurateurs des églises et des chapelles. Ils étaient extrêmement pauvres. Et cette montre a été, comment ça se dit en français?
Mais c'était le seul objet de valeur qu'il avait.
C'était le seul objet de valeur et on l'avait donné dans le... Il y a le Mons Pietatis,
on l'avait mis en gage au Mont Piété.
Exactement. Ouais. Et ils ont économisé, épargné pour la récupérer 3 fois. Et puis, évidemment, cette montre était dans sa poche toutes ces 4 années terribles dans les tranchées, dans la Première Guerre mondiale. Et il me l'a offert quand j'avais 12 ans, pour ma communion. Et j'ai dit, bon, merci mon grand-père, et je l'ai laissé tomber, je l'ai laissé glisser. Et évidemment, après coup, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait dans ma bêtise innocente de jeune garçon, c'est que j'avais laissé tomber son temps, et c'est ce qu'on fait toujours, on laisse tomber le temps des autres, on se rend pas compte. Et Hegel, à un certain moment, je crois dans l'histoire du droit, cette belle phrase que la sagesse est un hibou qui ne vole qu'au crépuscule, quand il est trop tard. Et je pense que le même va pour la mémoire. On commence à se souvenir quand c'est trop tard. Voilà.
Il vous a fallu du temps, effectivement. Mais sans doute parce que la jeunesse a changé de vie. Vous avez vécu une vie tellement différente de celle de votre grand-père et de ses frères et sœurs. C'était un autre temps, un temps qui nous paraît tellement éloigné de celui qu'eux avaient vécu. Donc il a sans doute fallu que vous atteigniez un âge d'homme mûr pour tout d'un coup tenter de ramener à la vie ses souvenirs, Stefan Hertmans.
Oui, mais il faut compter évidemment que j'ai vécu avec lui, que je l'ai connu très bien. Il a atteint l'âge de 90 ans. Ça veut dire qu'il est décédé quand moi j'avais 30 ans. Et il y a même encore quelques jours, à un certain moment, je sentais quelque chose. Il me disait que c'est une odeur qui lui appartenait. Un certain mélange d'odeurs que je me disais, c'était lui. Ça veut dire qu'au moment que je me suis demandé comment est-ce que je peux évoquer tout ce monde révolu, ce monde perdu, j'ai commencé par les odeurs, parce que cette leçon proustienne pour moi était très importante. C'est les odeurs qui vous ouvrent les souvenirs qui vous viennent spontanément. Et vous pouvez voir que dans le livre, il y a beaucoup d'attention pour les odeurs qu'on ne trouve plus dans les villes, par exemple. C'était quoi les odeurs et les senteurs dans une ville comme Gand, qui était pauvre, qui était sous la première ère de l'industrie, qui était vraiment grisâtre et sombre? Bah, ils sentaient les chevaux, ils sentaient les mauvaises herbes, ils ne se sentaient pas comme une ville sans aujourd'hui. Ça veut dire que tous ces petits détails très corporels, très physiques, ont été pour moi le départ, parce que j'ai attendu 30 ans avant d'oser d'entamer et d'écrire ce livre. J'ai hésité beaucoup et je me suis dit, quelle est la porte d'entrée? Parce que je savais qu'il n'y avait pas une grande porte d'entrée jubilatoire, mais qu'il y avait une toute petite porte en arrière de la maison que je devais trouver pour entrer tout ce bâtiment plein de souvenirs, plein d'histoires, parce que c'est une vie simple, c'est une vie d'un homme simple. On peut dire c'est un peu une hagiographie pour un homme modeste en Flandre.
Il a grandi dans une très grande pauvreté. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Parce qu'en même temps, il travaillait, sa mère, son père, lui très jeune aussi, dans une fonderie. Il a, vous raconté, son dos brûlé par les morceaux de métal en fusion qu'il atteignait, parce que les sécurités n'existaient pas. Tout le monde travaillait et il n'y avait pas d'argent. Il y avait une vraie souffrance de froid, de manque de tout dans cette maison. Il en parle dans ses carnets ou c'est vous qui l'avez reconstitué comme ça?
Oh, il en parle. Par exemple, l'anecdote que parfois, quand il avait 6 ans seulement, sur ses sabots, qu'il allait mendier du charbon à la gare du Damport, à Gand. C'est authentique. Et s'il n'arrivait pas à obtenir un peu de charbon, sa mère ne pouvait pas faire à manger le soir parce qu'ils n'avaient pas de l'argent pour acheter du charbon. Et en même temps, évidemment, ce qui pour moi était quand même dans son témoignage quelque chose de peut-être plus surprenant que son témoignage sur la guerre, c'est que c'était un milieu d'une extrême pauvreté, mais un milieu qui était rempli de finesse, de tendresse, de l'art. Il y avait ce sentiment artistique dans tous ces gens-là.
Parce que son père faisait la réfection des églises et peignait des fresques. Ils ont très tôt transmis à cet enfant le goût de la peinture, parce que c'est vraiment ce qui le reliait à son père.
La première chose qu'il voulait faire quand il avait un peu d'argent, c'est aller s'acheter un livre sur le Tintoret. Et il faut se rendre compte que quand son père meurt à 37 ans, cet homme ne meurt pas seulement d'une crise d'asthme, comme je l'ai décrit, mais aussi bien il avait cette ligne bleuâtre sur les gencives, ça veut dire
c'est un empoisonnement au plomb.
Un empoisonnement du plomb.
À cause de la peinture.
Exactement. Il est décédé comme un peintre de la Renaissance, mais on était 19e et c'était la pauvreté extrême. D'un côté, on voit presque, je dirais, le Charles Dickens en Flandre. Mais en même temps, il y a quand même cette force, cette énergie, cet espoir d'émancipation à travers l'art. La première chose qu'il a fait pour moi quand j'avais 11 ans, c'était m'amener à l'opéra, à Gand, pour aller voir Aïda ensemble avec lui.
Il aimait beaucoup la musique aussi.
Il était très musical, mais comme c'était le cas avec la peinture, après la guerre, quand il revient, on peut bien dire qu'il était brisé, hein, son caractère était brisé. La musique, pour lui, c'était quelque chose de sentimental. Il ne supportait plus. Et c'est quelque chose que j'ai entendu dire de beaucoup de gens, qui, évidemment, il y a une avalanche de témoignages qui m'ont atteint après coup, quand mon livre a été publié. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, oui, mon grand-père aussi, il ne supportait plus les belles choses de la vie. Il était toujours en larmes.
Mais il y en avait quand même une qu'il aimait et qui vous fait penser à lui toujours. On va l'entendre. C'est Rosamunde Schubert qui vous fait penser à votre grand-père. Cette musique-là, il se la passait quand même.
Oui, et en même temps, pour lui, c'était quelque chose qui l'isolait. Quand il entendait cette musique-là, ou il sortait de la maison, ou il baissait la tête, il fermait les yeux, et on se rendait compte qu'il était seul. Qu'il entrait dans un univers qu'on ne connaissait pas. Est-ce qu'il pensait à sa grande passion décédée, Maria Emilia? Est-ce qu'il pensait à ses copains qui étaient grièvement blessés dans la nuit, en train d'hurler, en train de mourir? Qu'est-ce qu'il voyait à ce moment-là? Je veux dire, cette sentimentalité de cette génération de survivants, c'était aussi une c'était pas seulement une sentimentalité, c'était quelque chose qui était un gouffre. C'était très terrible pour lui, je pense.
Alors, Stéphane Hefmatz, il y a des pages saisissantes dans votre livre, Guerre et térébenthine, et il y a notamment le moment où ce jeune garçon va découvrir, par un biais incroyable, sa passion pour la peinture, en découvrant, sur les pas d'un ami à lui qui l'emmène, non pas aux abattoirs, mais à l'endroit où on va fabriquer la colle à base de carcasses de viande, il va découvrir un tas de viande pourrissante, de têtes d'animaux rongées par les vers. Et ça va le faire penser à ce célèbre tableau de Rembrandt, La Carcasse. On va écouter la lecture d'une page de votre livre.
Une chose continue d'occuper ses pensées les jours suivants, le spectacle des têtes d'animaux dans la cour crasseuse. Dans son souvenir, la douce lumière de l'après-midi brille sur ce tas de laideurs à couper le souffle, et ce qu'il voit sont des couleurs, des teintes, les transitions les plus subtiles entre la lumière et l'ombre, les gris et le rouge, le sépia et le bleu nuit, le rouge foncé devenu presque noir, le jaune délicat, presque blanc, d'un morceau de pelage près d'un museau mort. Il se rappelle un des vieux livres que feuilletait son père, en particulier un certain tableau qu'il avait marqué quand il était enfant. Une carcasse de taureau peinte par le célèbre Rembrandt. Ce tableau représentait une chose dont on ne pouvait dire qu'elle était belle en soi, mais qui était transmuée en un spectacle puissant et beau. Cette contradiction le ronge au plus profond de son être. Il prend lentement conscience, tandis qu'il fixe la bouche mugissante du four à la fonderie, et que les projections dansent autour de lui comme des lucioles, que le choc provoqué par sa répugnance face au tas apocalyptique de viande pourrissante remplie de regards morts a éveillé quelque chose qui l'attire, qui le fait souffrir, qui ouvre en lui un nouvel espace, que pour la première fois est né en lui un désir qui semble le dépasser. C'est le désir de dessiner et de peindre. Et dès l'instant où il s'en rend compte, juste au moment où il serre une fois de plus entre ses mains une de ces lourdes cuillères remplies de fer en fusion, il a l'impression de sentir ses genoux fléchir. Sa soudaine prise de conscience l'assaille avec une force intense, empreinte d'une certaine culpabilité. Elle jaillit en lui comme un sanglot, comme un choc douloureux, électrique, qui vient du plus profond de lui-même, là où son subconscient a pris le temps de mûrir avant de se révéler au grand jour, dans le vacarme infernal, les martèlements et les cris, les objets traînés et lancés, les crépitements et les cliquettements. Il rêve d'un silence céleste, là, au milieu de l'espace sombre de cet atelier de braise, rempli d'ombres qui triment.
Stéphane Hertmann, ça va être un combat long et difficile pour votre grand-père d'arriver à prendre des cours de dessin en économisant de par-ci, par-là. Ensuite, la guerre va casser tout ça, il reprendra après. Mais même s'il a été pris de passion pour la couleur de ces animaux morts, lui, il va se spécialiser dans la copie de portraits essentiellement. Pas du tout ces scènes horribles qu'il a trop vues pendant la guerre en plus.
Oui, oui, tout à fait. Je crois que cette scène qu'on vient d'entendre, je la lis presque toujours quand je fais des conférences ou des lectures, parce que c'est une scène pivot. À ce moment-là, il est en train de vivre quelque chose qui lui surpasse complètement. C'est la laideur qui cause en lui le besoin de devenir artiste, hein, ou le désir. En fait, il vit quelque chose qui est purement la théorie du sublime de Kant. Mais il ne s'en rend pas compte, c'est un homme modeste. Mais ça m'a ému beaucoup, parce qu'après coup, quand il revient de la guerre, on pourrait dire pourquoi il n'est pas devenu un de ces artistes expressionnistes flamands qui étaient tellement forts, comme Permic ou quoi. Non, il restait un petit peintre qui a copié beaucoup de grands maîtres, et de l'autre côté, il faisait des paysages, des trucs innocents. Et je pense que c'est le refoulement total. Il n'a jamais peint une scène de guerre, jamais toutes ces atrocités. Il n'est pas devenu un Beckmann, quoi que ce soit, un Georg Gross. Non, c'était très catholique de prier, d'introvertir tout cela, de l'avaler, quoi, et de jamais en parler, et de vouloir être comme son père, parce qu'il voulait, dans mon imagination, il voulait toujours sauter ce gouffre et arriver de nouveau à l'autre côté, qui était le paradis pour lui, qui était 19e. Et dans cette pauvreté, quand même, pour lui, c'était le plus grand bonheur. Et dans cet homme, il y avait une qualité de naïveté qui m'a toujours fasciné, parce que la naïveté est une force pour beaucoup de gens, si c'est une naïveté forte et authentique.
Et il n'y avait aucune révolte en lui. C'est ce qui est étonnant quand on vous lit Stéphane Hertmann, c'est de voir l'extrême dureté, la pauvreté, le travail terrible qu'il a enduré, cette envie de peindre insatisfaite. Il n'y avait aucune révolte. Et d'ailleurs, vous racontez même qu'à une époque, à son époque de jeunesse, il était même horrifié par les manifestations socialistes ou syndicalistes pour réclamer une amélioration de la condition ouvrière. Il était très contre ça.
Mais il ne comprenait pas, comme tous ces gens, à l'époque, ils ont été divisés, séparés artificiellement, parce que l'Église a bien compris que le socialisme allait prendre tout le prolétariat. Et à cette époque-là, ils ont fait tout pour diviser les gens. Et ils ont évidemment réussi, quoi. Ça a duré très longtemps en Flandre. Et pour mon grand-père, évidemment, il y a cette anecdote que son père a été battu par des socialistes à un certain moment. Mais pour lui, ça lui a touché tellement, parce que son père était tellement fragile et vulnérable, qu'il était touché profondément. Après-guerre, il a eu une période qu'il était vraiment, il entrait dans une sorte de paranoïa et qu'il pensait qu'il y avait des micros partout dans la maison et que c'était le socialiste qui voulait le saboter parce qu'il était fait pour devenir un ministre de culture, quoi. À ce moment-là, on lui a donné des électrochocs. Et dans les années 50-60, c'était pas trop tendre. Ça veut dire que toutes ces horreurs qui allaient de pair avec une naïveté énorme étaient aussi quelque chose qui, en soi, avait à faire avec le refoulement total du catholicisme flamand à cette époque. Et en même temps, avec la nostalgie de son père et la dignité de sa mère. Parce que sa mère, évidemment, était une fille bien rangée, qui a descendu un peu pour marier son père. C'était un mariage énormément romantique et tendre. Et au moment qu'il perd son père, il n'a que la dignité de sa mère, qui lui a servi beaucoup, parce que c'était un militaire pur et dur, hein, dans les tranchées. C'était vraiment un héros. Tout ce qu'on pouvait obtenir de décoration de l'armée, il l'a eu. C'était vraiment un héros des tranchées. Et en même temps, c'était un homme qui se perdait, dans une sorte de rêve, dans un refoulement total. Il n'a jamais trouvé les mots même pour nous dire. C'est à cause de cela que j'étais tellement étonné quand je trouvais ces cahiers. Parce qu'évidemment, moi, quand j'ai obtenu ces cahiers, j'ai pensé, je sais ce qui se trouve là-dedans. Je connais ces histoires. Je les ai entendues chaque jour, pour ainsi dire, de mon enfance. Mais non, il y avait là toute cette, tout ce secret.
When an early autumn walks the land and chills the breeze and touches with her hand the summer trees, perhaps you'll understand the memories I owe. There's a dance pavilion in the rain, all shuttered down the winding country lane, all russet brown, a frosty window pane shows me a town grown lonely. That spring of ours that started so April-hearted seemed made for just a boy and girl. I never dreamed, did you, any fall could come in view so early, early. Darling, if you care, please let you anywhere. I miss you so. Let's never have to share another early to share another early autumn. A pavilion in the rain, all shuttered down a winding lane, then you'll know it's early.
Stéphane Hertmans, je le disais au début, la vie de votre grand-père que vous racontez dans ce livre, Guerre et térébenthine, on pourrait la qualifier de vie minuscule ou de vie grandiose, parce que quand on est un héros de guerre, mais lui, il est resté assez refermé, et vous avez découvert, en écrivant ce livre, en travaillant sur ses carnets, des secrets qu'il n'avait confiés à personne. Le secret de son premier amour, qui est mort en 1918. En Europe, il y avait cette épidémie atroce de grippe espagnole. Le secret de la pierre tombale de sa mère, qu'un jour vous avez retrouvée dans le sous-sol de la maison. Il l'avait rapportée parce qu'il y avait ce lien indestructible avec sa mère. Et puis le secret de la peinture.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est ce que je me suis rendu compte, parce qu'au début, quand je voulais entamer le livre, je me suis dit comment le faire, parce qu'il y avait déjà, au moment que j'ai commencé à écrire le livre, il y en avait déjà 100 000, je crois, sur la Première Guerre mondiale. Pourquoi ajouter encore un livre? Et je me suis dit, s'il y a encore quelque chose à ajouter, c'est l'intimité de ces gens. Et peu à peu, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de secrets que je ne pensais. D'abord, évidemment, la pierre tombale de sa mère, parce qu'il ne supportait pas que sa mère s'était remariée. après coup. On peut dire que son amour pour sa mère, c'était oedipien, c'est clair. Et quand il tombe amoureux de la belle Maria Emilia, c'est en fait une sorte de copie de sa mère. Vous allez certainement remarquer dans le livre, il y a tout un jeu de copie et original. Hein. Il s'agit de ces deux théories sur l'art. L'un, c'est que l'art est un mimétisme, qu'il faut apprendre à travers les autres à devenir original. Et l'autre, c'est cet axiome du romantisme et de l'expressionnisme qu'il faut faire du neuf comme un dieu, creatio ex nihilo. Et on voit que lui, il se bat avec cette idée d'originalité et de copie tout le temps. Et évidemment, ça entre dans sa peinture, parce que évidemment, d'abord, il y avait ses cahiers qui étaient déjà un secret. Il n'y avait personne dans la famille qui les avait lus. Moi, je les avais. Je les avais oubliés. Je les avais mis dans une boîte en carton. Mais le deuxième secret, c'est évidemment la peinture. Et là, on entre dans quelque chose qui m'a fasciné beaucoup, c'est que, étant peintre copiste, en copiant Velázquez, Van Dyck, Rubens, Rembrandt, même Da Vinci, hein, il a toujours ajouté quelque chose, un petit secret à lui. Parce qu'il, d'une certaine façon, il ne pouvait pas résister à y introduire des choses. Et évidemment, le secret le plus spectaculaire, peut-être je gâche un peu l'intrigue maintenant, c'est cette copie du Rokeby, le Vénus Rokeby de Velázquez. Dans le miroir, il a peint son propre grand amour.
Et en même temps, vous notez, Stéphane Hertmann, c'est intéressant d'ailleurs, qu'alors qu'il savait faire des portraits, puisqu'il a peint sa femme, lui, il n'arrivait pas à se reproduire. Il a fait une tentative du peintre avec la palette et vous dites que c'est complètement raté.
Oui, tout à fait. Je vais en parler dans la Villa Gillet dans quelques jours. Et je vais montrer les images parce que c'est vraiment spectaculaire. Le portrait de ma grand-mère, de Gabrielle, qui était la sœur de Maria Amelia, comme beaucoup de soldats, quand son grand amour était décédé, il a épousé la sœur. Mais ce portrait est un portrait vraiment dans la grande tradition. Il y a une mantille transparente, il y a la camée en ivoire, les dentelles. C'est vraiment un portrait dans la grande tradition. Par exemple, Goya a peint ces femmes espagnoles avec une dignité. C'est un grand portrait, c'est une grande réussite. Mais puis on tombe sur ce autoportrait. C'est terrible. C'est septième rang. C'est pas deuxième rang, c'est septième rang. Et pour moi, ça m'a beaucoup ému. Parce que ça veut dire que cet homme ne pouvait pas se regarder dans les yeux quand il se peignait. Et pourquoi pas, je sais pas trop. Il s'est peint encore une fois quand il avait déjà plus de 80 ans. Et à ce moment-là, il était déjà un peu aveugle. Il a fait un portrait qui est d'une naïveté. Ça me déchire parce que c'est un peu le douanier Rousseau, d'un certain côté. De l'autre côté, c'est cette impossibilité de se regarder soi-même. Mais, de l'autre côté, où est-ce que je retrouve son regard? C'est de nouveau dans une copie. Parce qu'il y avait ce regard sombre qu'il avait, par exemple, quand il écoutait Rosamunde de Schubert. Et c'était un regard terrible, introverti. Et ce regard, il a recopié dans L'homme au casque d'or de Rembrandt. Enfin, il n'a pas vécu la vérité que c'est par Rembrandt lui-même qui l'a peint, mais son atelier. Mais là, de nouveau, dans les copies toujours, il retrouvait son originalité. On lui avait volé sa personnalité, pour ainsi dire.
Alors, il y a quelque chose aussi de très surprenant, c'est que pour cet homme qui, en fait, n'avait pas fait d'études, ne savait pas écrire, dans ses cahiers, il a, pour raconter la guerre, et ça c'est toute la deuxième partie de votre livre, cette guerre de 14-18 terrifiante, la bataille de l'Isère notamment, il vous citez des passages entiers, alors vous y avez peut-être mis votre grain de sel, mais il y a en tout cas, 50 ans après les faits, le récit de ces batailles absolument incroyable. On va écouter, non pas le récit de mort, et Dieu sait s'il y en a, mais ce matin incroyable où les digues ont été ouvertes.
Les jours s'enchaînaient. Nous étions brinque-ballés entre une alerte soudaine et des heures de silence au cours desquelles tout paraissait calme et paisible. En général, notre artillerie déclarait forfait. Tirer n'avait d'ailleurs aucun sens. Là-bas aussi, les bouches de feu étaient usées par la chaleur et nos canons légers n'avaient pas une portée suffisante. De plus, certains jours, un brouillard glacial obstruait la vue. Cette nuit-là, dérivant silencieusement sur le fleuve, un radeau arriva sur lequel étaient posées de grandes caisses de nouvelles munitions. Nous n'avions aucune idée de la manière dont il nous était parvenu. Cependant, le spectacle qui s'offrit à nos yeux le lendemain matin dans la pénombre nous fit froid dans le dos. Des chiens, des lapins, des chats, des belettes, des putois et des rats traversaient le fleuve en masse comme une armée irréelle en traçant, de leurs museaux sensibles à fleur d'eau, d'innombrables triangles sur la surface lisse et noire. Les écluses à Newport avaient été ouvertes. Le pays se couvrait d'eau peu à peu. Nous prîmes lentement conscience que la marche de l'ennemi serait peut-être ainsi interrompue. Le cœur battant, nous regardions. Il fut strictement interdit de tirer sur les animaux pour ne pas trahir notre position. Nous les vîmes par conséquent, ces messagers au nez fin d'un monde maudit, prendre la fuite face à cet incompréhensible Armageddon, arriver à terre, secouer l'eau de leur fourrure, courir sans se soucier de rien le long de nos tranchées, fuyant à l'aveuglette comme des lemmings. Personne ne chercha à s'emparer des animaux, personne ne voulait en tuer pour les manger, même si nous avions faim. Tels des anges du jour du jugement dernier déguisés, ces créatures fantomatiques trempées disparurent de notre champ de vision, traversant en bondissant la plaine boueuse noire et brillante dans la lumière grise du matin. Stupéfaits, nous fixions la surface sombre du fleuve encore sillonnée de rides. Au loin, nous vîmes le vague reflet de l'eau approchant dans les polders.
Stéphane Hertmans, bien sûr, vous avez mêlé votre écriture aux souvenirs de votre grand-père, mais ce qui est surprenant, c'est de se dire que, bien qu'il ait été traité, même médicalement, vous avez dit qu'il avait eu des électrochocs, il était malade, il est revenu de la guerre brisé. 50 ans après, il avait une mémoire intacte du nom de ses camarades, de chaque bataille, des événements qui se sont déroulés. Et en même temps, c'est absolument terrifiant parce que ce qu'il raconte, bon, on le sait, hein, partout, l'incompétence des chefs, la maltraitance des hommes du rang. Enfin, il avait gardé ça intact.
Oui, oui, tout à fait. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il a commencé ses cahiers 63, ça veut dire presque 50 ans après la guerre. Et à un certain moment, je suis en train de relire ses cahiers pour la deuxième fois, et je vois un mot qu'il a brouillé. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas encore vu de rature. Là, j'ai feuilleté les 600 pages. Un homme qui commence à écrire sur une guerre, un demi-siècle après, et qui ne fait pas une rature. C'est terrible. C'est signe de traumatisme complet. Ça veut dire que même au moment que nous, les enfants, on en avait marre de l'entendre parler, etc., ça ne nous intéressait plus, et qu'il était tombé seul, ma grand-mère avait décédé en 58, qu'il a commencé à raconter la chose pour lui-même. Et j'en suis convaincu qu'il n'a jamais espéré qu'il y aurait quelqu'un qui pouvait le lire. Il me les a donnés seulement, je pense, parce que il m'a dit, c'était avec les mots, à qui d'autre que ce que je pourrais les donner. Moi, j'avais les cheveux longs, j'avais les jeans déchirés, je jouais du jazz, je fumais pas seulement du tabac, j'étais perdu pour la civilisation pour lui. Mais quand même, j'étais son arrière-fils et il m'a confié les cahiers. Et je pense que ce qui m'a ému beaucoup, c'est qu'il y avait là un témoignage qui était complètement privé, qui n'a pas été écrit pour les archives. Et en même temps, évidemment, à un certain moment, j'ai contrôlé. Il raconte de la première zeppeline qu'il voit au-dessus de Liège. Ils sont terrifiés parce que les Belges n'étaient pas préparés pour la technologie allemande.
Il n'y avait pas que les Belges qui n'étaient pas préparés.
Tout à fait. Les Alliés ont mis jusqu'à 17 avant de rattraper la technologie allemande, hein, avec les blindés. Et il faut se rendre compte que ce que c'était pour ces gens-là. Moi, je pense qu'ils avaient un peu l'impression qu'ils allaient encore refaire Waterloo ou quelque chose de ce genre. Et ce qui leur tombe dessus, c'est l'enfer total. Et ils voient un zeppelin à un certain moment, et il décrit que c'est l'anniversaire de sa mère, et il dit c'est juste avant midi. Et je me dis, bon, ça, si c'est tellement précis, il faut que je le retrouve. Alors, je saute dans ma voiture, je vais à Ypres, il y a un musée qui est très détaillé là. Effectivement, je vois une photo du premier zeppelin au-dessus de Liège, juste à 7 heures, et du point de vue où ils étaient, ils pourraient obscurcir le soleil, comme ils disaient. 50 ans après, il a noté cela. C'est incroyable, quand même.
Et alors, Stéphane Hertmans, il vous a donné ce grand-père urbain, ses cahiers, sans doute parce qu'il se disait que s'il y avait quelqu'un qui pouvait en faire quelque chose, c'était vous, il ne s'est pas trompé. Et est-ce que vous avez aussi conservé beaucoup de ses peintures? D'abord, est-ce qu'il y en a beaucoup?
Il y en a plein encore. Mon père vit... le matériel génétique, pour moi, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup. Hein. Mon père a déjà 94 ans. Il est en bonne santé. Il garde presque toutes les peintures parce qu'il est le beau-fils. Il habite toujours la petite villa au bord de l'Escaut. Là. Je pense qu'il y en a encore 60. Quoi. De l'autre côté, je les retrouve partout. Par exemple, il y a un petit restaurant à Bruxelles qui s'appelle le Paon d'Or. Et dans le Paon d'Or, il y a un paon de mon grand-père. Parce qu'il donnait tout en cadeau. Ça ne lui intéressait pas de le garder ou de les vendre. Mais évidemment, de temps en temps, je fais encore des recherches et des découvertes. Et à un certain moment, j'ai retrouvé la peinture, la copie du Vénus de Rokeby. Et à ce moment-là, ça devient intéressant parce que j'ai vu que le portrait était déchiré un peu à la hauteur du miroir où se trouve la figure de sa passion défunte. Cela veut dire que peut-être c'est ma grand-mère qui a essayé de mettre son talon à travers.
C'est peut-être un secret qu'il ne faut pas découvrir. En tout cas, ce travail de copiste des chefs-d'œuvre, ça nous a beaucoup intéressé ici à l'Humeur Vagabonde. Stéphane Hertmans, je vous présente Elsa Denag qui, du coup, est allée faire ses classes carrément à Orsay.
Avec un copiste. On va à la rencontre de Michel Champion, qui est copiste de métier. Ils sont une dizaine en France. Ils s'installent devant une toile au musée d'Orsay ou au Louvre. Ils regardent. Et puis ils se lancent pour reproduire les gestes de l'artiste et s'approcher au plus près du tableau initial. Sa palette est large. Il peut peindre du XVIe siècle jusqu'au contemporain. Vous voulez un Delacroix dans votre salon, un Caravage dans votre cuisine ou l'origine du monde de Courbet au-dessus de votre lit? Eh bien, appelez Michel.
Tombé dedans tout à fait par hasard. Mon père était peintre, mais bon, je haïssais la peinture dans le sens où, quand on allait au bord de la mer, au lieu d'aller à la plage, on attendait que mon père fasse une aquarelle. Et ou alors on allait au musée. Donc je m'étais toujours écarté de la peinture. Et moi, j'avais fait de l'électronique et de l'informatique. En 99, je me suis pris une année sabbatique et je commençais à m'ennuyer. Et à Noël 2000, ma femme m'a offert une boîte de couleurs, une fois une boîte de peinture à l'huile. Et au bout de 3 mois, j'étais au musée d'Orsay et je vois des copistes qui étaient dans le musée. Il faut aller au bureau des copistes, donc j'étais au bureau des copistes et 15 jours après, j'étais accepté. J'ai commencé comme ça, voilà. Et puis 2 ans après, j'en faisais mon métier. Au début, quand je copiais, j'ai beaucoup lu les correspondances des auteurs, l'histoire des auteurs, etc. Je m'immergeais complètement dedans. Et au fur et à mesure, on apprend, on fait des erreurs, bien sûr, on apprend. Et puis, bon, surtout, on apprend à regarder, parce que avant de peindre, il faut bien regarder. Et c'est là où c'est très important d'avoir l'original, parce que on arrive à voir un petit peu ce qui est dans les couches inférieures. Il y a toujours des petits manques quelque part. Ou alors, on regarde un petit peu sur le côté du tableau quand le cadre n'en recouvre pas complètement. On voit ce qu'il a mis en dessous, au-dessus de l'enduit, quel enduit il a mis, etc. Donc, il y a un tas d'aspects techniques comme ça qui permettent de remonter la peinture et de lui donner exactement la même vibration que celle de l'auteur.
C'était un copiste virtuose qui connaissait tous les secrets des substances et des préparations anciennes que, depuis la Renaissance, les peintres utilisaient et se transmettaient.
Avant que les écoles de beaux-arts existent, qui sont relativement récentes, c'était la manière principale d'apprendre à peindre. Énormément de grands maîtres ont appris à peindre en copiant.
Donc, ça, c'est un Derain. Donc, ça, c'est des peintures à moi.
Ça, c'est le premier que j'ai fait. Donc, c'était là, j'avais 3 mois de peinture. C'était Nature morte au vase bleu de Maurice de Vlaminck. À côté, vous avez un petit pissarro. Et puis après, là, vous avez un sisley. Ça s'appelle Sous-bois au sablon. Ça, c'est une copie de musée. Ça, c'est une copie de musée. Ça, c'est une copie de musée. Vous verrez pas de signature parce que dans le musée, on a deux obligations. C'est d'avoir une différence de taille d'au moins 20 ou 30% en plus ou en moins par rapport à l'original et de ne pas reproduire la signature. C'est règlement intérieur des musées nationaux. Il faut derrière identifier la copie de manière indélébile comme étant une copie, donc avec mon tampon et puis à l'encre indélébile marqué copié par Monsieur Champion à telle date, etc. etc. Voilà.
Ah bah donc celle-là, elle n'est pas vieille alors.
Celle-là vient d'être faite.
Ainsi suit d'aujourd'hui.
Quand il copiait un détail du Titien ou de Rubens, il savait qu'il devait faire preuve de patience. Être capable de réaliser un croquis précis au fusain, un mélange secret de couleurs, une dilution de pigments.
On n'a pas exactement forcément les mêmes pigments, parce qu'il y a pas mal de pigments qui sont interdits maintenant, comme les pigments au plomb, trucs comme ça. Mais on a des pigments qui sont très stables et qui permettent de vraiment se rapprocher de ce qu'on avait dans le temps. Les enduits, on les connaît bien, donc on refait les mêmes. Je fais souvent des enduits à la colle de peau. Alors on disait colle de peau de lapin avant, maintenant c'est plutôt de la colle de peau de vache. Mais la colle de peau avec du blanc de meudon, des choses comme ça, ça se prête bien à la copie.
Évaluer le temps nécessaire pour laisser reposer une première couche, avant d'en appliquer une deuxième, pour donner une impression de profondeur et de transparence.
Je viens de terminer un Botticelli, la Madone au Magnifica. J'ai pris un pied extraordinaire, quoi. En définitive, on a plaisir à tout copier parce que on cherche la perfection. Et quand on arrive à peu, enfin, la perfection, c'est un petit peu prétentieux, mais quand on arrive à l'instant de grâce où vraiment ça vibre comme l'original, ça fait plaisir. Ça c'est le Botticelli. C'est un tondo, c'est un tableau qui est rond, qui ornait une coupole avant. C'était merveilleux à faire, ça. En plus, c'est d'une précision, c'était vraiment du gros travail. Ça, c'est une peinture sur bois qui m'a demandé à peu près 2 mois et demi de travail, quoi. C'est long, très long, beaucoup plus long que de peindre sa propre peinture. Sur un tableau comme le Botticelli, là, je vous dis 2 mois et demi. Ça, c'est pas loin du travail, quoi. La copie, c'est pas du tout de la libération. Au contraire, c'est nerveusement, c'est éprouvant. Parce que on est toujours en retenue. Et il faut analyser, interpréter, être le plus fidèle possible à ce que l'on voit, sans amener ce qu'on aurait mis, nous, à la place. Alors que la peinture, notre propre peinture, c'est beaucoup plus du jeté. Et là, il va falloir que je retravaille sur moi pour savoir un petit peu dans quelle étagère, qui je suis, quoi. Parce que c'est vrai qu'on acquiert énormément de techniques, mais on se perd un petit peu dans toutes les influences. Je reproduis des tableaux pour des particuliers, pour par exemple quelqu'un qui veut offrir à sa femme pour l'anniversaire de mariage le tableau de ses rêves. Ça arrive assez souvent d'avoir des commandes où le client demande par exemple de remplacer un visage par le sien, quelque chose comme ça, ou celui de sa femme. Bon, par exemple, en chose rigote, moi j'ai un client qui m'a demandé un jour le consul Bonaparte passant le col du Mont-Saint-Bernard, c'est Napoléon sur son cheval avec les armées derrière, bien sûr avec son visage à la place et son nom de gravé dans la pierre à la place de Bonaparte. Ou bien de rajouter un personnage dans un tableau, etc., etc. On peut tout faire.
Il a transformé la copie en énigme. La vérité de la vie se cache souvent dans des endroits que l'on n'associe pas à l'authenticité. La vie est en cela plus subtile que la morale des gens et leur dogmatisme. Elle œuvre comme ce peintre copiste qui, en se servant des apparences, représente la vérité.
En Bretagne, là, on vient de faire une association qui s'appelle, on habite sur la presqu'île sauvage, ça s'appelle Chef d'œuvre en presqu'île, et on monte tous les ans une exposition que de copies, et le but ultime étant peut-être de faire un musée de la copie dans quelques temps. Donc ça nous permet de monter un musée virtuel en provenance des différents musées du monde et sur une quinzaine de jours dans un petit village où on va retrouver des monnaies, des gauguins, etc. etc. quoi. Voilà, je suis dedans et je suis dans la copie encore pour quelques mois puisque je prends ma retraite au 1er juillet. Je vais avoir enfin le temps de peindre pour moi. En septembre, il me reste les raboteurs de parquet de Caillebotte, les coquelicots de Monet, bateau landais dans la tourmente de Turner. Et puis, les tricheurs de Caravage. Et puis après, là, c'est fini.
Merci beaucoup, Elsa. J'espère que vous avez une belle copie maintenant chez vous.
Oui, j'ai commandé un Bacchus avec ma tête. Comme ça, je peux boire du vin tout le temps.
Absolument. Stéphane Hertmans, en fait, en écoutant ce reportage et après avoir lu votre livre, je me dis que d'une certaine manière, c'était le caractère de votre grand-père de se réfugier comme ça dans la peinture des maîtres et peut-être de ne pas oser montrer ses propres créations, qui ne se lancent pas.
Peut-être, mais ce n'est pas seulement une question d'oser. Je vais vous donner un autre exemple, ce qui est un de ses plus belles réussites, c'est le fait qu'il a copié la grande peinture de Saint-Martin, son, c'est à lui parce qu'il s'appelait Martin. Saint-Martin qui est sur son cheval, qui est en train de déchirer son manteau pour un pauvre qui est peint avec un dos spectaculaire, comme si c'était déjà un Egon Schiele au XVIIe. C'est très beau, ce tableau. Il a peint quand il avait déjà 72 ans. Et je me suis rendu compte après coup que c'était la copie d'une peinture qui se trouve, personne ne le sait, dans une petite église à Zaventem. Zaventem, c'est pas seulement l'aéroport, c'est aussi un petit village, il y a une église Saint-Martin. Et là se trouve ce grand tableau de Van Dyck. Ce n'est pas sécurisé ou rien. Il y a encore une autre, il y en a deux. Il y en a une à Buckingham Palace, chez la reine d'Angleterre. Et l'autre se trouve là dans cette petite église. Et après coup, je me suis rendu compte, évidemment, il a peint cela. Mais pourquoi? Parce que après la bataille cruelle, terrible de Zaventem, évidemment, il s'est rendu dans l'église et peut-être en larmes, sous la boue et le sang, etc. Il a dit, si je peux survivre cette guerre, je vais vous peindre Saint-Martin. Ça veut dire que chez lui, il y avait des raisons qui étaient évidemment un peu plus profondes et un peu plus existentielles.
Voilà. C'est, en tout cas, c'est une histoire absolument magnifique que vous nous avez racontée là, Stéphane Hertmans. Vous avez largement payé votre dette, j'ai l'impression.
J'espère bien.
Vous le sentez comme ça?
Parfois, je me demande qu'est-ce qu'il ferait quand il pourrait retourner. Peut-être qu'il serait très indigné parce que j'ai trahi ses secrets érotiques. Peut-être qu'il serait fier, on n'en sait rien.
Disons qu'il serait fier. C'est certain. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Je rappelle donc que pour les Assises internationales du roman qui ont commencé aujourd'hui à la Villa Gilet à Lyon, les auditeurs qui seront dans le coin pourront vous retrouver à cette table ronde qui aura lieu le 26 mai à 21h avec Christophe Boltanski et Lydie Salvert, des beaux participants. Et vous parlerez justement de l'art du portrait. Et puis il y aura bien sûr une rencontre avec vous au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Ça sera le lendemain, le 27 mai, à 18h30. Et je rappelle que votre livre est paru il y a très peu de temps chez Gallimard et qu'il a été traduit par Isabelle Rosselin. Merci à vous, Stéphane Hertmans.
Merci à vous.
Eh bien, c'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons demain. Je continuerai avec notre partenariat avec les Assises du roman à Lyon. Je recevrai l'écrivain britannique Zia Haider Rahman qui publie un formidable livre chez Christian Bourgois.